Avant de débuter l'épisode, je préfère faire un avertissement qu'on aborde un sujet très sensible à l'intérieur de celui-ci. On va aborder notamment de suicide, de dépression et de problèmes de maladie mentale. Si vous avez des problèmes de cette nature-là ou si ça vous touche, accédez aux ressources qui sont disponibles au Canada, c'est suicide.ca ou textez au 53 53 53. Ou en France, au 3114.fr, et c'est la même chose sur le numéro de téléphone, 3114, où vous pouvez avoir de l'aide, des gens qui peuvent vous accompagner dans la situation que vous vivez et vous aider à vous sortir d'une situation qui peut être complexe. Si vous êtes sensible à ces choses-là, je ne vous conseille pas d'écouter l'épisode, sautez-le, puisque ça pourrait peut-être réveiller des choses chez vous. Pour les autres, c'est un épisode très important pour pouvoir aider les gens dans votre entourage et de voir ou de déceler chez vous, si c'est le cas, des signes avant-coureurs d'une situation qui pourrait devenir problématique et vous aider à progresser et à aller plus loin. Bonne écoute. Bienvenue au Polysécure épisode humain. Je suis accompagné de Davy. Comment vas-tu?
Ben écoute, on va dire bien pour aujourd'hui.
Bon, bien, on va voir justement pourquoi tu le fais avec un soupir comme ça. De ta très grande générosité, tu viens partager l'épreuve que tu as vécue dans les derniers mois, que tu as partagé un peu sur LinkedIn. Mais là, tu vas faire une discussion beaucoup plus large de ce que c'est. Puis justement, pour donner des guides et des avertissements aux gens qui pourraient avoir des signaux et justement d'agir correctement et peut-être un peu plus rapidement que t'as pu le faire. Enfin, je vais te laisser démarrer avec ça.
Ben d'abord, je veux te remercier parce qu'effectivement, c'est un sujet personnel cette fois-ci, effectivement. Et puis, je te remercie de me laisser la parole sur ce sujet qui peut toucher des personnes qui vont peut-être nous écouter ou qui ont des proches qui vont être concernés aussi. Parce qu'il m'est arrivé effectivement cet été. Donc je suis quelqu'un de plutôt costaud, j'ai vécu des choses assez brutales dans mon passé, voilà, je suis un ancien alcoolique, ça fait 21 ans que je ne bois plus, j'ai monté ma boîte, enfin, j'ai un passé avec un vécu, et ça ne m'a pas empêché cet été de me prendre une dépression nerveuse, suite à un changement familial assez important et à un changement de situation que je n'ai pas vu venir, mais aujourd'hui avec lequel, dont je suis capable de donner des signes avant-coureurs que j'ai pas réussi à entendre à ce moment-là. Et bien que aujourd'hui ça aille mieux, effectivement cet été, je vais être vraiment très honnête et transparent. Je pensais pas forcément m'en sortir cet été. Donc c'est vraiment pas quelque chose que j'anticipais de revivre. Ah, j'ai 48 ans. Enfin voilà, c'était pas je pensais que j'étais plutôt solide. Je pensais que j'étais parce que le pire était derrière moi et je m'attendais pas du tout à vivre cette ce qu'on appelle un épisode dépressif. Donc en psychiatrie. Donc qu'est-ce que c'est qu'un épisode dépressif déjà? Donc un épisode dépressif, ça peut arriver, alors il y a c'est un pourcentage qui est connu, il y a 20% de la population mondiale qui dans sa vie va vivre un épisode dépressif, c'est-à-dire à un moment donné, une épreuve de vie, quelque chose qui va arriver, quelque chose d'assez violent, brutal, qui va casser la machine biologique que vous êtes. Donc une dépression, c'est ça. J'ai découvert ce que c'était. J'étais concerné par la dépression parce que j'avais un fond dépressif depuis longtemps, mais qui n'était pas bien méchant. J'ai quelqu'un de très proche qui souffre de dépression, elle, continue. Donc, je connais du point de vue de l'accompagnant, mais je crois que je me rendais vraiment pas compte de ce que c'est. Et ça, c'est le premier truc que je voudrais partager avec vous, c'est que tant qu'on ne l'a pas vécu, franchement, vraiment, il faut faire preuve d'humilité, on ne sait pas du tout ce que c'est. On se rend pas du tout compte des effets. Et je vais citer un youtubeur connu en France qui a fait un tollé avec une certaine vidéo où il disait « Ouais, t'as dépression, rien à foutre, bouge-toi le cul. » Eh ben, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que si c'était une question de volonté, je vous assure que ça aurait duré 3 jours pour moi. Donc, non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vraiment la machine ne fonctionne plus. Donc, pour celles et ceux. Oui, vas-y.
Je vais faire une petite intervention parce que, effectivement, pour avoir passé par des périodes plus compliquées, j'étais de ceux qui pensaient que c'était facile de passer par-dessus. Justement, c'est une question de volonté. On vit un peu avec cet esprit-là que c'est juste bouge-toi puis tu vas être capable d'avancer. Le réel, c'est quand ça te frappe comme un coup de pelle en plein visage.
tu tombes à terre et tu comprends plus ce qui se passe et tu perds tes repères aussi. Ce qui est très grave parce qu'on n'est pas socialement éduqué à être capable de décoder, parce que tu vas le relater d'ailleurs comme tu n'as pas vu les signes. Et comment faire pour travailler avec ça, parce qu'il est quand même capable de s'en sortir. Par ailleurs, c'est pas juste se bouger le cul. C'est ta machine chimique qui est brisée, puis assez brisée ou déréglée, puis tu n'as pas le contrôle de ta machine chimique comme on aimerait tant le penser.
Oui. Et donc, la dépression, c'est quelque chose qui arrive quand on a un choc émotionnel fort, quelque chose. Alors, ça peut être lié à un changement de travail, un déménagement, une séparation. Alors, moi, pour le coup, j'ai cumulé les trois en même temps. Donc, c'est ce qui m'est arrivé, puisqu'au 30 juin 2025, j'ai déménagé dans une maison que j'ai achetée en Bretagne, à 600 km de là où j'habite aujourd'hui, qui est à Fontenay-sous-Bois. Je venais de me séparer de ma compagne. Et je quittais ma compagne et sa fille avec qui je vivais depuis 12 ans. Et donc, cette migration dans ce projet en Bretagne était teintée d'un désir de ma part d'aller à la campagne, de changer un peu de vie. Je viens de la campagne, donc je connais. Et j'ai fantasmé beaucoup de cette vie-là. Sauf que pendant tout le moment où j'ai progressé vers le moment de la migration, du déplacement, du déménagement, j'étais très stressé. Alors, très stressé à un point où j'en avais mal au ventre. Et je vous le dis, j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie. Il y a longtemps que j'ai pas eu ces sensations-là. Sauf que ça a duré pendant plusieurs mois. Et au moment où j'ai signé, par exemple, le compromis de vente, si je dois être honnête, en fait, je cachais le fait que je regrettais déjà. Je me cachais à moi. Mais je me disais, c'est des doutes. Et des doutes, on en a tous. C'est normal, quand il y a un gros changement comme ça, on a tous des doutes. Et du doute légitime, on peut en avoir. Sauf que quand le doute, il vous quitte pas pendant 6 mois, c'est peut-être qu'il y a plus que ça. Par exemple, j'avais beaucoup de mal à aller visiter les lieux, à aller visiter les biens. Et je me suis dit, aujourd'hui, avec le recul, je peux me dire, bah, parce qu'en fait, j'avais pas envie. Mais c'est parce que j'avais pas envie d'aller là-bas, parce qu'en fait, j'avais pas envie d'y aller. Mais je fantasmais d'un lieu. Alors, en l'occurrence, moi, mon plaisir, c'est d'avoir un lieu à la campagne pour me préparer à, de façon très dramatique, une fin du monde, ou en tout cas me la couler douce dans un endroit plus posé. C'était cette idée-là, et le Finistère était parfait pour ça. C'est vrai que c'était le beau lieu. La maison que j'ai acquis était une belle maison. Je suis pas mécontent de la maison. Mais le fait de m'être forcé à le prendre sous la pression de quitter mon ex-compagne, en fait, il y a un petit déclencheur qui a commencé à me mettre en panique, c'est que mon ex-compagne a trouvé un bien à acheter, et ça m'a stressé. Donc, je suis lancé à aller chercher des biens. J'ai visité des biens. Et déjà, un truc qui aurait dû mettre la puce à l'oreille, c'est que les biens que je voyais sur place ne me plaisaient pas du tout. J'arrivais pas. Et j'ai visité 6 maisons en 2 jours. Alors, faut jamais faire ça. Déjà, c'est beaucoup trop. Vous êtes crevé, vous en pouvez plus. Émotionnellement, c'est trop chargé. Le premier soir, je suis rentré à l'hôtel, je pleurais. Pour un petit détail, pour vous donner du contexte, j'ai passé 10 ans en thérapie pour débloquer le fait que j'arrivais plus à pleurer depuis 10 ans. Donc voilà. Et là, j'étais en pleurs. Je me disais, ça va pas le faire. Et j'avais l'impression que tout allait s'arrêter, en fait. Donc je suis tombé sur cette maison qui était mieux que les autres. Et je me suis mis bien en tête que c'était celle-là. Alors qu'il y avait plein de détails qui faisaient que cette maison n'était pas la bonne. Je le savais déjà. Mais je m'étais dit, bon, c'est un compromis. Il n'y a jamais rien de parfait. Donc je m'étais convaincu que c'était la maison. Et je suis reparti en disant, c'est cette maison-là, j'ai fait une proposition. Et à partir du moment où j'ai fait la proposition, je me suis senti comme pris au piège. Et ça, c'est le premier truc. C'est vraiment la première chose. À partir du moment où on a la sensation d'être pris au piège dans une situation où on a encore le choix, c'est qu'il y a un problème. Donc, si ça vous arrive, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, dès que vous avez la sensation d'être pris au piège, ça, c'est vraiment un symptôme typique. Et c'est cette sensation de prise au piège qui va s'accentuer jusqu'au point où on a la sensation qu'il n'y aura jamais d'autre issue. Et quand on est au fond de la dépression, c'est cette sensation qui vous amène aux pires pensées et aux actes. J'en ai déjà parlé dans un des podcasts précédents. L'année dernière, j'ai perdu un ami qui, lui, s'est retrouvé dans une situation, alors pas la même, mais en dépression, avec cette sensation que sa douleur n'arrêterait jamais et il s'est ôté la vie. Et ayant vécu, moi, cette étape cet été, j'ai pour la première fois compris par quoi il était passé. Et j'ai compris qu'on peut, à un moment donné, ne plus être en capacité de voir les choses de façon objective et rationnelle, mais être empli par une urgence de sortir de la peur, de l'horreur, de la douleur. Et donc, dès qu'on a cette sensation d'être prise au piège, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Votre cerveau est en train de vous dire, si tu vas par là, moi, je vois pas d'issue. Et donc, c'est qu'il faut pas aller par là, en fait. C'est une façon de vous dire, si tu pousses, moi, je peux pas. Je peux pas t'accompagner jusque là. Donc moi, le temps s'est passé, je me suis convaincu, on a cherché le crédit, on a galéré pour avoir le crédit. Et petit détail, j'ai eu du mal à l'avouer en thérapie, par exemple. Tout le temps où la banque me faisait miroiter le crédit, je me disais, j'espère qu'ils vont pas me le donner, en fait. Et je le disais à personne. Je disais à tout le monde, j'espère que j'aurai le crédit. Mais au fond de moi, je disais, j'espère qu'ils vont me le refuser. Il manque de bol pour moi, et ils l'ont validé. Donc, j'ai été prendre les clés de la maison. J'ai fait 3h30 de train, 4h pour aller sur place. Pendant les 4h, j'avais des maux de ventre, j'en pouvais plus. Arrivé sur place, c'est à côté de la plage, c'est beau. Je me suis convaincu que ça allait. Le lendemain, j'ai pris les clés, je suis rentré chez moi. J'étais bon, j'ai ma maison. Et rien que d'en parler là, je suis encore ému. Et j'ai les larmes qui montent parce qu'en fait, c'était mort, en fait. C'était déjà mort. Mais impossible de l'accepter. Jusqu'au jour du déménagement qui s'est très, très mal passé, où il a fallu que je fasse la route dans la journée en voiture, 6h avec le chien, il faisait 40 degrés dehors, etc. Les déménageurs m'ont tout débarqué. Le soir, je suis arrivé. Donc, ils sont partis, il était minuit. Et j'étais là au milieu de cette maison. Et j'ai envie de dire cette maison qui voulait pas de moi et dont je ne voulais pas. J'ai voulu prendre une douche. Et là, j'ai deux salles de bain dans la maison, il n'y en a pas aucune des deux fonctionne. Et là, je m'effondre en larmes. Je craque complètement. Je me dis, qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Et alors, il y en a qui vont me dire, mais un déménagement, ça fait ça, c'est un gros changement. Je dis, oui, ça arrive, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des déménagements qui sont durs, et j'en ai parlé avec plein de gens qui ont bougé en province, qui ont changé de vie, qui ont des fois beaucoup de mal à s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'ils font de mauvais choix, ça veut dire qu'il y a un changement de repère qui est très important et que des fois, c'est très difficile à vivre. Mais là, je pense qu'il y avait beaucoup plus, en fait, derrière. Et à partir du lendemain matin, j'ai compris que ça n'allait pas. Le lendemain matin, je me suis réveillé en ayant la sensation d'être en train de mourir. J'avais la respiration entièrement bloquée, le ventre noué. J'ai perdu 5 kilos en 8 jours. Alors, sachant que l'année précédente, j'ai perdu 26 kilos déjà. Pour des raisons personnelles. Donc là, vous imaginez que mon corps avait déjà amaigri. Il a réussi à perdre 5 kilos en 8 jours. Et je pleurais toute la journée. J'allais au supermarché, je regardais les produits, je ne savais plus quoi acheter. Je pleurais dans les rayons. Je rentrais chez moi. Je vivotais. La seule chose qui me tenait au rythme de vie, c'était le chien. J'ai un chien, il fallait que je m'en occupe. Il pouvait pas, lui, subir ça. Donc il fallait que je le sorte, que je le nourrisse. Perte d'appétit complet, j'arrivais à dormir, ce qui est déjà pas mal. En dépression, c'est rare. En général, ça cumule tout, hein. Souvent, une dépression, ça peut vous, il y a plein de symptômes et ils peuvent se cumuler. Souvent, il y a la perte de sommeil, il y a la perte partielle, voire complète de l'appétit. Moi, j'étais écœuré par toute la nourriture. Il y a évidemment des niveaux d'anxiété très élevés, des larmes, une tristesse profonde. Et ça a duré plusieurs jours comme ça, et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que je demande de l'aide. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est comprendre que vous ne sortirez pas de ça avec un aspirine, une bière, ou surtout pas boire pour le coup, surtout pas picoler, ni en vous enfermant sur vous. Donc il faut directement demander de l'aide. Et au bout de deux jours, je crois que j'ai commencé à appeler les gens autour de moi, à faire des posts sur LinkedIn, et dire en fait, je crois qu'il y a un truc qui va vraiment pas. C'est vraiment beaucoup trop gros, ça va pas du tout, en fait. Et toute réflexion d'un sens de me dire, ouais, mais ça va passer. Mort. C'était fini. J'ai même essayé de travailler, puisque j'avais une mission en ce moment-là. J'ai fait une journée de formation sur 5 que je devais faire. J'arrivais même pas à parler, en fait. Ça me faisait mal intérieurement de parler. Ça me demandait une énergie folle. Et le soir, j'ai fini aux urgences psychiatriques en me disant, j'ai besoin d'aide. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est une situation dont on ne se sortira pas tout seul. Tous les psys vous le diront, tous ceux qui sont passés par là vous diront, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. C'est beaucoup trop gros.
Oui, puis c'est là l'important, et de construire un réseau et un entourage avant que cette situation-là arrive. Puis je souhaite à tout le monde que ça arrive jamais parce que c'est vraiment très souffrant. Le niveau de douleur intérieure, il est inimaginable tant qu'on n'y a pas touché. C'est comme si son âme voulait mourir.
Puis c'est vraiment puissant comme sensation. Donc, si on n'a pas un entourage qui est là, qui peut nous accompagner, qui peut venir nous tendre une main temporairement pour nous amener justement dans une situation où on va consulter un professionnel comme tu as fait, qui nous aide à faire le passage du monde qu'on est en train de mourir mentalement à on a de l'aide qui nous aide à nous remettre sur pied et droit. C'est très, très important. Puis ça, c'est pour moi un des conseils que je donne aux gens. Si vous êtes isolé, brisez cette solitude-là. Un jour, ça va vous servir. Vous allez en avoir de besoin. Puis on ne sait jamais quand on en a besoin dans ce moment-là.
Donc moi, j'ai eu de l'aide un peu sur place déjà par la personne qui m'a vendu le bien. L'agente qui m'a vendu le bien m'a aidé à trouver un médecin parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un médecin disponible au mois de juillet qui prend un patient nouveau dans le coin. Donc je suis arrivé le lundi, j'ai vu un médecin le vendredi qui m'a donné des anxiolytiques, qui m'a dit par contre, il faut que vous alliez à l'hôpital rapidement. J'ai voulu passer le week-end dessus, ok. Le lundi matin, donc j'ai donné mon cours. Le lundi soir, j'étais à l'hôpital aux urgences. J'ai dit non, en fait, j'y arrive plus du tout. Alors merci les urgences de Quimper, génial. Franchement, j'ai été pris en charge très vite par une équipe géniale qui a été accueillante, qui m'a vraiment aidé. Et donc il m'a donné des antidépresseurs. Alors les antidépresseurs, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des a priori dessus. Faut pas s'emmerder. Les antidépresseurs ne vous soignent pas. D'accord? Il faut comprendre qu'un antidépresseur n'enlève pas la dépression, un antidépresseur répare la machine biologique. Donc, une dépression, qu'est-ce que c'est? C'est votre cerveau qui se coupe du corps. Et c'est-à-dire que tous les récepteurs, tout ce qui est plaisir, sommeil, faim, libido, etc., ne fonctionnent plus. Vraiment, chimiquement, vous êtes complètement cassé. Ce qui fait que quand vous mangez, vous n'avez plus de plaisir. Un peu comme quand vous avez fait que vous êtes enrhumé, que vous n'avez plus de goût. D'ailleurs, pour ceux qu'on appelle de la gueusie, c'est-à-dire ceux qui perdent le goût définitivement, souvent tombent en dépression, hein, c'est lié. Donc en fait, vous avez, tous ces récepteurs-là ne fonctionnent plus. Donc vous imaginez que vous ne pouvez plus ressentir ni de plaisir, ni de joie, ni de satiété, mais vraiment, physiquement. Ce n'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est vraiment biologiquement, c'est prouvé. On peut vous faire des prises de sang, on peut noter le manque complet. Et si votre corps et votre cerveau ne vont plus ensemble, vous ne pouvez plus continuer. Donc l'antidépresseur, il vient réveiller les récepteurs, il vient refaire reproduire par le cerveau la sérotonine, la mélatonine, etc. Il vient aider le cerveau à remettre en place en disant « Allez, on va aider la machine ». Donc c'est une béquille chimique qui permet de ne plus trop subir les effets négatifs de la dépression. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on s'est retrouvé, tu m'as demandé comment je vais, je lui ai dit « Je suis toujours dans la même merde, mais je le vis mieux ». C'est-à-dire que ma situation n'est pas meilleure, mais moi, vous voyez, j'ai le sourire, je me force pas, ça va mieux parce que l'antidépresseur, et j'ai beaucoup de chance, l'antidépresseur que je prends marche très bien sur moi. Alors, les antidépresseurs, un truc important, enfin plusieurs choses importantes, donc c'est pas une fatalité en soi, c'est pas grave d'en prendre, ça peut durer, c'est un vrai soutien. D'une part, ça ne peut pas fonctionner seul. Il faut un travail thérapeutique avec. Et je vais revenir dessus. Ensuite, les antidépresseurs, il existe plusieurs catégories. Donc, il faut pas hésiter à en tester plusieurs. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir un psychiatre, puisque ce sont des médecins du cerveau, mais aussi de la biologie, qui vont vous orienter sur le bon traitement. Ensuite, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ça met beaucoup de temps à faire effet. Donc, il faut avoir beaucoup de patience. Et la patience, quand on a une dépression, c'est un truc dont on n'a plus. Mais ça peut mettre entre 10 à 15 jours à vraiment faire effet, donc ça paraît énorme, et je peux vous assurer que quand vous en chiez par chaque heure qui passe, c'est très long. Moi, j'ai énormément de chance, ça a fait effet en quelques jours. Autre chose, les antidépresseurs ont d'abord, parfois chez certains patients, et c'est moi ça a été le cas, l'effet inverse. C'est-à-dire que beaucoup, sur place, j'étais en Bretagne, j'ai pris la décision de tout arrêter, de dire « bah écoute, voilà ». Je n'ai rien à faire ici. La seule chose que je puisse faire, c'est rentrer chez moi à Paris. Je me suis déraciné, ça m'a trop brisé. J'ai rien à faire là-bas. C'est une très belle région. J'ai du mal aujourd'hui à le dire, mais je ne regrette pas d'être passé par là. Tant pis. J'ai perdu beaucoup d'argent dans l'équation. Vous doutez bien que d'acheter une maison de ce type et la revendre immédiatement, bah non. En fait, voilà, j'ai perdu quelque chose comme 50 000 euros. C'est-à-dire toutes les économies que j'avais depuis plusieurs années. Mais ça va, en fait. Ça m'emmerde, je vais pas vous dire le contraire, mais ça va. C'est que de l'argent. D'accord? Il m'en reste plus beaucoup. Je vous assure qu'aujourd'hui, je fais moins le malin. Mais je me dis, je vais faire le nécessaire pour essayer de m'en remettre là-dessus. Mais l'argent, ce n'est que de l'argent. Ça se regagne.
Oui. Puis je vais faire un croche sur le fait d'être déraciné. Parce que c'est une sensation que les gens ne comprennent pas tant qu'ils l'ont pas vécu, ça aussi.
Oui.
On a l'impression, parce que on va voyager, mais quand on voyage, on ne se déracine pas. On a toujours notre chronique résidence.
Mais oui, on sait où on habite, on sait où on est.
Quand on se déracine, c'est pas tout le monde qui le vit bien. Je dirais probablement la majorité des gens ne le vivent pas bien. Et c'est pourquoi, puis à bien des égards, les gens peuvent ne pas comprendre pourquoi les gens qui sont déportés ou sont déplacés par la guerre, par exemple, vont avoir un énorme goût de revenir où ils sont, ou même vont rester où ils sont malgré la guerre.
Ben, on l'a vu récemment avec Gaza. Oui. Les gens revenaient sur l'endroit où ils habitaient, mais si c'était des ruines, tu sais exactement ce que tu dis. C'est vraiment l'exemple. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, mais c'est des ruines. Oui, mais c'est chez eux. C'est chez soi et c'est quelque chose de fondamental.
Et c'est en ça, puis ça, je trouve ça important de le souligner parce que ce que tu as vécu un déracinement qui est un changement brutal comme n'importe quel déracinement peut avoir lieu, qu'il faut pas sous-estimer et justement le prendre à sa pleine valeur. Puis ça aussi, tu l'as appris brutalement dans les circonstances, mais tu as fait le choix et heureusement, tu avais des économies pour te réussir à te retourner, à revenir sur un choix qui n'était pas idéal pour toi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais dans ton cas, tu avais suffisamment pour ça. Puis c'est un autre appel de toujours avoir un fonds de réserve. Donc, avec des freelances, on a naturellement les fonds de réserve parce que c'est comme ça qu'on apprend à vivre. Mais pour ceux qui ne sont pas dans ces conditions, ayez un petit bas de laine avec vos 10 économies dedans parce que si vous en avez besoin un jour pour vous sortir d'une situation très problématique, je pense que dans ton cas, c'est entre le fait d'aller sur le chemin, d'aller mieux, et de rester dans un trou noir et sombre, c'est ça qui a fait une des choses qui a fait de la différence.
Si j'avais dû envisager de rester sur place, j'ai essayé. Hein. Je vous avoue que les pensées, non, en fait, j'aurais pas pu. J'étais incapable. Je pense que ça serait très mal fini pour moi. Donc, je me suis dit à un moment donné, OK, ma santé vaut mieux que la maison, je pars. Donc, je suis revenu le 18 juillet. Voilà, j'ai passé 18 jours sur place. Ça allait mieux, un peu mieux, parce que j'étais dans l'énergie du retour. Et quand je suis rentré, j'ai eu une deuxième phase où je me suis réeffondré une deuxième fois encore plus. Mais là, c'est parce que je pense que comme je revenais là où j'étais chez moi, j'ai pu relâcher encore plus. Et je me suis fait aider direct en arrivant, mais c'était prévu puisque j'ai vu là encore l'équipe médicale avant de partir et j'ai vu mon médecin traitant en arrivant qui m'a préconisé des antidépresseurs. Donc, sauf qu'elle a oublié de me préciser qu'effectivement, ça peut avoir des effets doublés d'abord. Donc, je me suis retrouvé aux urgences le lendemain parce que là où l'angoisse s'arrêtait vers le midi, l'angoisse ne me quittait plus. Et sauf que l'angoisse, c'est ce qui vous pousse à des idées très, très sombres. C'est, voilà, vous avez peur de mourir et l'envie en même temps de mourir non-stop. Mais vraiment juste non-stop, pas une pensée furtive, en continu. Voilà, avec des sensations physiques. C'est vraiment, vous êtes tendu, vous pouvez plus respirer, vous pouvez pas dormir, vous avez envie de dormir quand même, vous êtes fatigué. Les antidépresseurs font souvent un effet somnolent les premiers jours. Donc là, vous luttez, c'est comme si vous savez que vous voulez pas aller vous coucher, mais vous restez devant la télé, mais vous n'arrivez pas à complètement vous reposer. Ben, c'est ça en continu. Donc j'ai fait la bonne chose et l'erreur d'appeler le 15 pour savoir, parce que je sais que les antidépresseurs ont pas tous les mêmes effets, etc. Il faut bien. Donc je me disais peut-être que c'est moi qui réagis mal au truc. Et la personne du 15 a fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire qu'elle a testé de voir si j'avais des pensées suicidaires. Et pour elle, elle a détecté dans ce que je disais, oui, des pensées. Donc je me suis retrouvé avec les pompiers en moins de 2 minutes chez moi, qui sont venus me chercher, qui m'ont dit bah non, on vous laisse pas, vous allez à l'hôpital. Donc voilà, dû gérer le fait de laisser le chien, mon ex-compagne est venue après le chien, voilà, et je me suis retrouvé aux urgences. Voilà, personne aux urgences m'a expliqué, non, il n'y a pas de souci, c'est normal, par contre, restez pas seul. Donc, on redit, on ne reste pas seul, on n'est pas capable de rester seul, je vous confirme, je n'étais pas capable de rester seul sans que ça génère des souffrances supplémentaires. Alors, c'est le paradoxe, c'est le truc chiant. Quand on est en dépression, on veut voir personne, on veut dormir tout le temps, on veut plus bouffer. Et les 3 trucs qu'il faut faire, c'est sortir, voir du monde et manger. En fait. Parce que ça remet la machine en place. Et je l'ai testé puisque suite à cet épisode-là, j'ai ma sœur qui habite en région parisienne aussi, donc j'ai été chez elle pendant plusieurs jours. Et à un moment donné, alors le fait déjà d'être avec quelqu'un d'autre, ça vous aide. Et à un moment donné, elle rangeait la chambre d'une de ses filles, qui était plein de Playmobil partout, mais alors vraiment beaucoup, ils en achètent en brocante plein, donc alors on étonne. Je vais, vas-y, viens, je vais ranger avec toi. Et ça m'a fait un bien fou de me mettre à ranger, à faire un truc physique. Et en fait, la machine remarchait. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'aperçoit que en se poussant, là, oui, effectivement, il faut des effets de volonté, quand on y arrive, en se poussant à faire ça, ça nous aide. Je pars, par exemple, en Bretagne, ce qui m'a fait tenir, c'est le fait d'aller marcher avec le chien. D'où le fait que j'ai perdu beaucoup de poids, c'est que je faisais 10 km par jour. J'allais sur le long de la côte, j'allais marcher dans les champs, etc. On marchait, on allait à la plage, je marchais tout le temps. Parce que ça me permettait de quitter la maison, parce que la maison me rendait extrêmement triste, très mal. Donc je sortais de la maison pour pas la voir. Et ensuite, effectivement, je marchais beaucoup. Donc l'activité physique aide énormément. Je le redis, c'est très dur. C'est très dur parce que vous avez vraiment pas envie. Mais il faut le faire. Donc si ça vous arrive, pareil, vous voulez bouger, vous trouvez des gens, vous dites, si quelqu'un vous connaît et veut vous aider, si quelqu'un vous dit comment je peux t'aider, ben viens avec moi, on va marcher. C'est con, hein, mais allez marcher. Faites le tour autour de chez vous, allez en ville, allez au cinéma, enfin peut-être pas envie de vous montrer, allez vous balader en forêt, en campagne, mais vous allez voir que ça vous fait des moments dans la journée où vous êtes juste en train de revivre normalement en fait. D'un seul coup, la machine, elle s'alimente. Et ça aide énormément que biologiquement, vous soyez dans l'action. Donc s'engager dans des actions, aussi petites soient-elles. La satisfaction de retrouver le goût de la nourriture. Pareil, se faire des repas. Pas manger extraordinairement, mais juste des choses qui vous font plaisir. Alors, j'avais perdu pas mal de poids, j'avais enlevé certains trucs de mon alimentation. Dans ces moments-là, faut accepter de se foutre la paix. Vous bouffez du chocolat, vous bouffez des glaces, vous bouffez ce que vous voulez, mais il faut du plaisir. Donc là aussi, c'est très important. Si vous avez des problèmes de poids dans ces moments-là, vous dites, c'est pas grave, on s'en occupera plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. Pour le coup, j'ai repris pas mal de poids depuis. Et là, ça va mieux. Vous voyez, ça m'est arrivé cet été. On est donc le 27 octobre. Je commence à reprendre mon poids correctement. J'ai commencé à redescendre les sucres, par exemple. Alors ça, c'est des effets secondaires de certains antidépresseurs. Moi, j'ai des antidépresseurs qui n'ont plus d'autres effets secondaires pour moi, à part l'augmentation de l'appétit et l'appétence pour le sucre. Donc, j'aurais trouvé un truc que j'avais enlevé chez moi, qui sont des cravings de sucre. Sur lequel, depuis quelques jours, j'arrive. Vous voyez, là, tel que je vous en parle, ça fait quelques jours seulement que j'arrive à me reposer là-dessus, à ressentir ces sensations et à dire, je peux faire sans. Et à passer à autre chose, à aller dans une autre pièce, faire un autre truc. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mangé 2 carrés de chocolat. Il y a une semaine, je bouffais la tablette entière. Et c'est pas grave. Même quand je dis ça, je me dis ça moi-même, c'est pas grave. Oui, j'ai repris, depuis, voilà. Cet été, je suis descendu à 85 kilos. Cette semaine, j'étais à 94. Vous voyez, j'ai repris pas mal. Donc, moi, mon objectif, là, c'est de redescendre tout doucement vers 90. C'est mon poids de forme avant tout ça.
Ouais, mais ce qui revient à dire, parce que tu dis repartir la machine, les sensations de plaisir, comme tu le mentionnes, font partie des choses de redémarrer la machine, que, et dans une optique aussi à terme de ne plus avoir besoin de la béquille qui est les antidépresseurs, qui fait artificiellement fonctionner la machine. Il faut que la machine commence par rouler par elle-même. Donc, le plaisir, donc de manger notamment, en fait partie de ces éléments-là qu'il faut cultiver, même si ça peut avoir des effets temporaires sur le poids. Mais c'est important de sentir qu'on vit.
Oui, et sans culpabilité. Jouir du présent et être dans le présent. Et ce qui est énorme, en fait, on en parlait tout à l'heure aussi, parce que finalement, on est beaucoup dans nos têtes. On est rarement finalement tant dans le présent. Alors, j'ai fait beaucoup de méditation aussi, de la cohérence cardiaque, s'il y en a qui connaissent pas, allez voir. Ce sont des exercices, il n'y a rien de mythologie, enfin de mystique là-dedans, hein, ni de complotiste. C'est simplement des exercices de respiration qu'on retrouve dans certains arts martiaux, dans les sports dans beaucoup de sports de haut niveau. Ce sont des simples exercices sur 5 minutes, vous respirez à un certain rythme. Et en fait, vous le faites 3 fois par jour. Par contre, il faut s'y restreindre, il faut dire matin, après-midi, soir, ou quand vous avez des angoisses, vous faites ça et vous apercevoir. Et c'était même biologiquement, c'est mesuré. On voit justement le taux de stress qui redescend dans le corps. Ce sont plein de petits trucs qui vous font re-être dans votre corps et plus dans votre cerveau. Donc reprendre la sensation de se sentir respirer, expirer, sentir vos poumons, votre cage thoracique, le mouvement dans le ventre, tout ça, c'est super important. Et ce qu'on appelle de la méditation en conscience, je sais plus.
Pleine conscience.
En pleine conscience, merci, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est juste concentré sur l'acte qu'on est en train de faire. Et ça m'arrive de le faire quand je marche avec le chien, par exemple, quand je pars 2 heures. Il y a des moments où j'essaie de plus penser et je me concentre sur les mouvements que je suis en train de faire. Et vous vous forcez à le refaire. Dès que vous avez la tête qui part dans une pensée, vous dites non, je me concentre là-dessus. Et Et on voit ça là aussi chez beaucoup de sportifs qui font ça, qui se concentrent sur les gestes pour prendre conscience de chaque détail d'un geste. Si vous faites des katas au karaté ou en kung-fu, des choses comme ça dans les arts martiaux, vous faites du tai chi. Le tai chi est un très bon exercice aussi, d'une lenteur extrême parce que ça vous oblige justement à avoir conscience de chaque partie de votre corps et ça vous évite d'avoir la tête qui pense sans arrêt. Okay. Il y a des trucs qui va peut-être vous surprendre, mais moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo. C'est un truc qui me détend beaucoup. Je suis accro, j'adore ça. Voilà. Pendant un mois, j'ai pas pu jouer. J'étais incapable de me réautoriser à vivre cette sensation. Donc, il arrive qu'on ait même du mal à s'autoriser ou à faire des trucs qui nous font plaisir dans ces moments-là. C'est normal. Si ça vous arrive, c'est normal. Donc, faut prendre le temps là aussi de juste ne rien faire. Il y a plein de moments où, bah, quand je suis rentré et que les antidépresseurs ont commencé à faire effet, que j'étais sur une routine, bah, j'ai passé le mois d'août, en fait. Là, j'étais en arrêt maladie. Au passage, quand on est freelance, être arrêt en maladie, c'est pas une bonne idée. Voilà. Le système français est bien sur plein de niveaux, mais pas là-dessus du tout. Donc, attention, si vous êtes à votre compte, c'est très risqué. Moi, ils m'ont remboursé même pas 20% de ce que je touche normalement, en fait. Enfin, c'est dérisoire. Donc, là aussi, il faut avoir de la réserve.
Ouais. Moi, j'ai des assurances pour ce type de choses-là. Même si les montants sont ridicules, au moins, j'ai un minimum de revenus si je vais être arrêté pour une période.
Oui, mais alors en France, on les a aussi, c'est obligatoire, sauf que j'ai découvert qu'elles ne s'appliquaient qu'au bout de 90 jours d'arrêt maladie. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut rester pendant 3 mois dans la merde. Non, 6 mois. C'est quand même impressionnant. Donc non, j'en ai fait les frais cet été. Donc cet été, je me suis dit, je me fous la paix. Alors, je me suis dit, c'est la pire et la meilleure période pour passer ça. La pire parce que tout le monde est en vacances, donc les amis n'étaient pas toujours là. Et la meilleure parce que de toute façon, j'aurais pas eu grand-chose à foutre de plus. C'est très calme, donc après tout, bon, je ratais pas grand-chose en termes d'activité. Et donc, je me suis foutu la paix et ça m'a permis de me reposer. Et reposer, je le dirais en un mot et en deux mots. Reposer et reposer. Donc, dormir, marcher, retrouver un rythme, réinvestir le lieu dans lequel je suis, qui était mon ancien appartement où on vivait en famille. Alors, pareil, gros changement. Alors, pour celles et ceux qui comprennent pas pourquoi ça m'a fait cet effet-là, c'est que je me suis déraciné, mais j'ai aussi quitté une vie de famille au bout de 12 ans, et je ne m'étais pas du tout préparé à ça. J'avais pas voulu le regarder, donc je suis parti loin, dans un lieu que je ne connais pas, sur un projet de vie qui était un fantasme, en quittant, alors, une commune où je vis depuis 28 ans, qui est Fontenay-sous-Bois, donc j'étais bien ici, et en quittant donc ma cellule familiale, que j'aimais beaucoup. On s'est séparés parce que c'était nécessaire de se séparer, parce qu'on n'avait plus à être ensemble, on voulait, je n'ai aucun regret, mon ex-compagne non plus, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y en a jamais eu, mais quitter la vie de famille et la cellule confortable de la famille a été très violent. Et c'est souvent d'ailleurs dans les situations que les psys vous disent de dépression, c'est souvent des séparations, déménagements. Donc là, moi, j'ai cumulé plusieurs d'entre elles. Donc là aussi, je pense qu'il y en a parmi vous à qui ça doit envoyer des échos, des réverbérations, si vous avez subi des séparations dans le passé ou récemment. C'est souvent des événements qui sont beaucoup plus difficiles qu'ils n'y paraissent, parce qu'il y a des effets et ça rappelle des choses. Personnellement, moi, ça m'a fait remonter des choses tragiques de mon passé quand ma mère est décédée. Donc voilà, j'ai revécu un écho de cette situation. Donc c'est aussi pour ça que ça a été très violent pour moi. En tout cas, ça s'est manifesté comme ça chez moi.
C'est surprenant à quel point ça fait des choses, parce que moi, c'est mon déclencheur, c'était essentiellement une séparation. C'est brutal, on s'y attend pas, puis on pense, c'est toujours sur une espèce de mythe, on est plus fort que ça, je vais passer à travers tout ça.
Je vais gérer.
Ben c'est ça, il y a un moment donné, on n'est plus capable de gérer, puis le cerveau fait juste comme, non, je refuse de gérer, puis il abandonne, puis quand il abandonne pour de vrai, là, ça revient, là, il n'y a pas de, je vais négocier, il n'y a pas de négociation. Ouais. Lui, il coupe les ponts, puis il dit, arrange-toi. Puis là, c'est ça là, où ça arrive. Puis la séparation est un élément très important pour beaucoup de gens qui négligent, puis qui vivent aussi avec une dépression latente dans certains cas. C'est pour le fait qu'ils n'ont jamais passé à travers l'élément difficile de la séparation et donc de guérir le débalancement temporaire. On pourrait qualifier de dépression mineure, mais bien des gens vivent avec cette espèce de fardeau-là qui est immense puis qui ne devrait pas normalement vivre avec ça très très longtemps. Là. C'est pas fait pour ça. Là.
Ah non. Moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 20 ans, en 97. d'une maladie assez rapide. Je me suis retrouvé sorti de chez moi alors que j'étais adolescent et que jeune adulte à 20 ans et que je sortais à peine de ma petite maison de campagne. J'avais connu que ça. Cette expérience a déjà été brutale pour moi à l'époque, mais pas aussi brutale. C'est le paradoxe. C'est-à-dire que si je prends le recul aujourd'hui, alors j'étais très malheureux, je l'ai mal vécu, je suis tombé alcoolique, j'ai pris 30 kilos, enfin, une belle catastrophe, automutilation. J'ai eu un moment où je suis tombé au fond du fond, où j'ai dû réfléchir à est-ce que je continue à vivre ou, à l'époque, je vais être honnête et je suis désolé de la brutalité, mais je me tue. Et je l'ai vraiment envisagé de façon très cartésienne, disant bon, est-ce que je me suicide ou est-ce que je continue à vivre? Mais je ne veux pas rester entre les deux. C'est plus possible. Là, je suis à un endroit où plus bas, c'est fini, ou ben, je repars. Bon, a priori, vu que je suis là, c'est que j'ai décidé de repartir. Et c'est pas évident, en fait. Vu de l'extérieur, ça pourrait avoir les apparences de « Ah, t'as pris la décision ». Cette décision, j'ai mis 6 ans ou 7 ans à la prendre. Vous voyez, pendant 7 ans, je me suis détruit. Je buvais des quantités d'alcool astronomiques. Je consommais l'équivalent de 4600 calories par jour. À l'époque, j'avais compté. Je me réveillais au bourbon et à la bière et au chocolat. Ah oui, c'était violent.
C'est assez brutal comme ouf.
Voilà. Ça m'a emmené dans des situations catastrophiques. Je commence à devenir violent et invivable avec les gens autour de moi. Et à un moment donné, j'ai dit, non, stop, t'arrêtes, quoi. Arrête. C'est suffit. Non. En fait, non. Et oui, il y a un moment où on a une décision, mais c'est pas une décision rationnelle. C'est ce qu'on appelle une évidence. Une évidence, ça ne se décide pas. C'est pas une question de je pèse le pour ou le contre. Quand je vous dis aujourd'hui que j'ai pesé le pour ou le contre, c'est que je suis arrivé à un stade de ma vie où le chemin se dessinait devant moi. C'était l'évidence d'aller vers la mort. Et je dis, mais moi, je veux pas mourir, en fait. Donc, il y a ça aussi en soi. Il faut avoir une force de vie qu'il faut être capable de retrouver. Ça n'a rien de simple. Mais parmi nous, il y a des gens qui ont cette force de vie qui, des fois, les dépasse. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière d'avoir ce moment où j'ai... Je disais en thérapie souvent que j'avais pas la sensation que c'était moi qui ai pris la décision, parce qu'en fait j'avais du mal à identifier cette prise de décision, parce que c'est pas vraiment juste une décision, c'est une espèce d'énergie de vie qui explose, qui vous dit « je suis là, je suis en vie, en avance ». Et après c'est cette énergie qu'on est capable de rappeler là régulièrement pour s'engager. Donc ça aussi c'est quelque chose dont on discutait avant de commencer cette session. On parlait d'engagement, de commitment. J'aime bien le terme en anglais, il est fort, je trouve. Où il y a des moments c'est dur, il y a des moments ça n'oublie pas ce qu'on se passe, mais on va essayer de tenir le coup parce que on sait qu'il y a autre chose. Alors la dépression souvent vous empêche de voir autre chose. Moi c'est ce qui me faisait péter un câble cet été, que j'avais l'impression que c'était définitif, ce qui est en train de se passer. Et ça, tous les gens qui suivent une dépression comprennent très bien. Cette notion de, on se dit, ben oui, mais rationnellement, tu comprends bien qu'il y a autre chose. Oui, mais là, je crois que tu comprends pas. Parce qu'on n'est plus en capacité, psychologiquement, de voir autre chose. Et on a des chemins qui se tracent tout seul. Je vais vous faire, et j'espère que je ne brusquerai personne, mais, en rentrant sur Paris, dois déjeuner avec une de mes voisines pour qu'on voilà me change un peu les idées. Je la croise au supermarché, je lui dis bon, je fais les courses pour ce soir et tout. Et je lui dis j'ai plus de poils, c'est vrai, parce que comme on venait de se séparer, ben, quand on se sépare, on se partage toutes les affaires de la maison, ben j'avais plus de poils pour cuisiner. Et je me dis dans ma tête, bon, je vais aller acheter une poêle. Et en allant vers le rayon, dans ma tête, j'ai une autre partie qui me dit mais non, ça sert à rien, tu vas te suicider. Et je me suis fait peur tout seul, parce que c'est pas je veux me dire ça va être bien. C'est une autre partie de ma personnalité qui surgit, qui dit non, ça sert à rien. Puis ouais, mais moi consciemment là, j'ai pas envie de mourir. Mais vous avez une partie de votre être qui vous dit ça. Donc vous avez ces moments de cohabitation avec d'autres parties de votre être qui sont pas évidentes du tout à gérer. C'est ce qu'on appelle chez certains de la schizophrénie, c'est-à-dire la difficulté à dissocier, à penser, à reconnaître que c'est soi dans les deux cas. Et c'est très, très, très difficile, des fois, pour certaines personnes, de vivre cette capacité à exister. Mais on n'est pas que des êtres simples, on est des êtres complexes avec plein de personnalités différentes, avec plein de sensations différentes qui se manifestent. S'il y en a qui ont du mal à comprendre la dépression, je vais vous donner une autre illustration parce qu'elle me fait rire aujourd'hui. En étant en convalescence chez ma sœur, à un moment donné, je la regarde, je lui dis, tu sais quoi, ça fait 40 minutes que j'ai envie d'aller aux toilettes faire pipi. Et ça fait 40 minutes que je dis à mon cerveau, lève-toi, ou corps. Et j'y arrive pas. Je lui dis, je comprends même pas, en fait. Je lui dis, je te regarde, je t'explique, je conscientise tout ça, mais le corps ne me suit plus du tout. Voilà ce que c'est, une dépression. C'est-à-dire, vous êtes à des choses comme ça, vous sentez, et vous ne pouvez plus, le corps ne vous suit plus. Alors que, ben, aujourd'hui, je sais quand même me lever pour aller faire mes besoins, voilà. Vous voyez, ça vous paraît naturel. Et imaginez qu'un truc aussi bête que ça, ça vous demande un effort de concentration, de motivation, et que le corps a du mal, parce que pour le coup, il a même plus les signaux pour physiquement bouger. Donc vous êtes obligé de faire même un effort supplémentaire juste pour bouger, déjà. C'est vraiment, vraiment, comme tu disais, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Et comme je l'ai dit à la personne que je connais qui, elle, est en dépression de longue durée dans ma famille, et je lui ai dit, j'ai plein d'empathie pour toi, et je suis désolé parce que je pense que je ne comprenais pas jusqu'à aujourd'hui ce que tu, par quoi tu passes. Et je pense que j'ai pas été à la hauteur pour t'aider, parce que franchement, c'est horrible, c'est comme sensation. Donc, les médicaments font effet. J'ai pu reprendre le travail en septembre, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, parce que d'abord, mon travail est quelque chose que j'aime beaucoup, et puis économiquement, ça m'aide aussi à rentrer là-dedans. Je ne suis pas sorti d'affaire, parce qu'une dépression ne se soigne pas en quelques semaines. Donc là aussi, pour ceux qui vont passer par là, ou qui sont en train de passer par là, il faut beaucoup de patience. Ça prend du temps. Un épisode dépressif en moyenne, et ce n'est qu'une moyenne, c'est à peu près 6 mois pour en sortir. Donc moi, là, j'en suis à donc juillet, août, septembre, octobre, 4 mois. Vous voyez, je suis encore dedans. Et aujourd'hui, je pensais que j'allais demander à arrêter les médicaments très tôt. Ben, les 2 dernières séances chez le psychiatre, c'est moi qui ai demandé à continuer. C'est-à-dire que je sens que je suis fragile. Je sens qu'il y a des épreuves qui m'arrivent là, parce que pour le coup, ben, il faut que je me débarrasse de mes maisons. J'ai du mal à les vendre. En plus, la période est catastrophique en France pour le marché. Enfin, c'est... Donc, je sais qu'il va falloir que je redéménage. Je ne sais pas où je vais aller. Et je sens que je suis fragile là-dessus. Je vais mieux puisque la séparation est actée. Je suis retrouvé du bon travail, va moyennement bien, mais au moins je sais où je suis. Vous voyez, je vais mieux physiquement parce que je me reprends en main, mais j'ai des fragilités. Et continuer à avoir le sens, la notion de ces fragilités, il faut pas vouloir aller trop vite. Il faut être à l'écoute de ça. Donc là aussi, le travail que je fais, c'est de m'écouter. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les médicaments, ce n'est qu'une béquille chimique. Ça ne soigne pas. Ça va potentiellement beaucoup vous aider à passer à autre chose, à être capable de travailler. Par contre, vous avez le devoir d'aller vous faire accompagner par un psychothérapeute, un psychiatre, un psychanalyste. Quoique, je suis pas fort, je suis pas très pour la psychanalyste. Psychothérapeute de, d'importe quel type. Moi, il se trouve que j'avais ma thérapeute depuis 10 ans, que c'est quelqu'un qui, avec qui, enfin, je fais un très gros travail avec elle depuis des années, qui m'aide beaucoup. Et on a accentué les séances, et j'ai vu certaines séances vraiment me débloquer, m'aider à digérer le moment, et surtout à comprendre, sans trop y assister, qu'est-ce qui s'était passé, ok, etc. Mais surtout, comment envisager un après? Et il y a encore quelques semaines, quand on faisait des séances, au mois d'août, par exemple, je me reposais, ok, ça allait mieux, mais je disais, je vois pas un après. Et ça me faisait peur. Je disais, oui, mais même là, en étant plus calme, plus rassuré, je vois pas tant que ça l'après. Donc là, ça commence à aller mieux. Et c'est un exercice constant de patience et d'apprendre à être vraiment dans le présent. Donc, faites-vous accompagner par un travail thérapeutique. Prenez celui que vous voulez. Si vous savez pas vers qui aller, demandez-nous. On peut vous donner plein de noms. Regardez autour de chez vous, regardez autour de vous, ceux qui sont passés par là. Vous allez voir qu'il y a des professionnels très bien qualifiés pour ça.
Quand tu dis regardez autour de vous, il y a plus de gens autour de vous qui ont passé à travers ces chemins difficiles-là qu'il n'en paraît, parce que les gens sont très gênés d'en parler. Et ils veulent pas, ou en ce qu'ils se trouvent, ils comprennent, puis ils pensent qu'ils sont des anomalies. J'ai des amis qui ont passé à travers, puis à un moment donné, ils ont levé la main, puis ils ont posé des questions. Ils disent oui, mais je sais ce que tu fais, où tu passes. Je l'affiche pas parce que j'ai pas de prétention de ce côté-là. Mais en même temps, je suis pas gêné du chemin où j'ai passé. Puis tu parlais de fragilité, puis celle-là, c'est un point qui résonne parce que mon épisode, il a eu lieu à peu près il y a 10, 12 ans. La fragilité demeure à vie. Une fois que cette porte-là s'est ouverte, elle reste ouverte pour le restant de la vie. Et c'est d'autant plus important de vous faire accompagner parce que c'est pas, vous êtes pas fragile au sens, vous êtes comme un verre de cristal. C'est juste que ça a ouvert une porte dans votre esprit que maintenant vous devez maîtriser. Surveiller. Oui. Être avec vous et dans ce, je l'aime beaucoup cette porte-là maintenant. Ça, les premiers temps, j'ai trouvé ça très difficile d'avoir à gérer cette nouvelle chose dans ma vie. Mais en même temps, c'est une nouvelle facette de moi qui s'est exprimée, qui s'ouvre et qui s'exprime. Par ailleurs, faites-vous accompagner parce que si vous n'êtes pas habitué à voir ça, disons, si on va prendre le stéréotype type, vous êtes un homme, vous êtes tough, vous êtes ça, peut-être que vous avez une porte de fragilité, une porte de d'émotion et de pleurs qui apparaît. Ça peut être très surprenant. Si vous savez pas quoi faire avec, vous allez essayer de la fermer, puis ça crée des dommages beaucoup plus importants. Donc, d'aller vous accompagner sur la gestion de cette émotion-là qui s'est ouverte et qui va rester ouverte et qui va vous accompagner pour longtemps. Et prenez-le du côté positif. C'est pas une mauvaise émotion qui est apparue. C'est une nouvelle chose qui est apparue dans votre vie, un nouvel outil qui est apparu. Donc, travaillez-le de ce côté-là, puis ça a des avantages, mais il faut se faire accompagner.
Alors, moi, j'ai un mot spécial pour les femmes. Parce qu'il y a beaucoup plus de femmes finalement en dépression que d'hommes, et la plupart d'entre elles ne le déclarent jamais. C'est-à-dire qu'elles le subissent, et par les injonctions et la charge mentale, en fait, de devoir gérer la famille, leur position, mesdames, souvent, vous oubliez vous. Et ça se manifeste ensuite par des maladies. C'est-à-dire, pas psychosomatiques, ça déclenche des ulcères, ça déclenche des facilités à avoir des cancers, et tout un type de maladies que vous n'auriez pas eu si vous vous faites prendre en charge et vous acceptez de dire, au fait, moi, je peux plus. Et si votre entourage ne peut pas entendre, faut les envoyer chier, faut aller voir les gens qui vous entendent. Et moi, j'en ai parlé cet été sur les réseaux, et ma grande surprise, c'est qu'effectivement, plein de gens, ils venaient me parler d'expériences similaires, et des gens que je ne connaissais pas non plus, qui sont venus m'aider. D'ailleurs, je les remercie pour ça. Parce qu'il y a des gens qui sont venus m'aider, je les connaissais pas, d'autres que je connaissais qui sont venus m'aider aussi, et puis d'autres moins, avec qui voilà, c'était pas leur truc. Donc on prend ce qu'on peut. Moi, je sais que j'ai repris des liens aussi avec des gens avec qui j'avais une communication pas continue, et donc aujourd'hui j'ai repris contact avec des gens. Je me suis déplacé, j'étais les revoir au lieu de dire sans arrêt je vais aller les voir puis ne jamais y aller. Ben depuis cet été, j'arrête pas d'aller voir les amis que j'ai dans la région parce que je vois les amis justement que j'ai eu. Et donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, même à des gens que vous connaissez pas, parce que effectivement, ouais, on le met pas sur notre visage ou sur un t-shirt, mais dès que quelqu'un ouvre la parole, on dit bah oui, ouais, t'inquiète, c'est quelque chose de relativement commun, assez répandu. Et là, pour les hommes ou les femmes, si vous ne le déclarez pas, vous l'enterrerez pas. Hein. Comme tu l'as dit, on vivra avec toute sa vie, mais si en plus on ne le traite pas, ça va vous revenir. Vous ferez un burn-out ou vous ferez une maladie. Et vous irez jusqu'aux extrêmes en pensant que vous êtes tout seul, que vous ne en sortirez pas. Et là, vous allez faire encore plus de mal parce que d'une part, ben, vous allez potentiellement vous ôter la vie, puis vous allez traumatiser et faire du mal à vos proches, à votre famille aussi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne sorte pas l'alerte en disant, oh, je vais pas bien, de l'aide, s'il vous plaît, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait cet été. C'est la première chose que je vous dis que j'ai bien, voilà, heureusement que j'ai eu ce réflexe. Parce que c'est une épreuve où on ne peut pas, j'insiste, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et je, comme tu l'as dit, j'ai un vécu, moi, assez costaud, j'ai vécu des merdes dans ma vie, j'ai eu de la force, je me suis sorti de plein de trucs. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis pris ça dans les dents, ça m'a brisé d'une certaine façon. Ça me permet de me reconstruire différemment aujourd'hui. Comme tu le dis, je vivrai avec toute ma vie en ayant cette expérience. Aujourd'hui, je vais pas dire que c'était bien de l'avoir, mais si, en fait, parce que j'en ai eu besoin à ce moment-là. Ma thérapeute me fait avaler la pilule de, ben, si tu t'es imposé ça, c'est qu'il fallait passer par là. Ok. Ça a du mal à faire du sens, mais.
Ah, ça va, ça. Ben, ouais. Pour, je me rappelle la douleur qui était associée à cet épisode-là. Et jamais je pourrais dire que c'était une bonne chose que ça passe dans ma vie, même si les effets à terme sont positifs parce que ça l'a accéléré des chemins thérapeutiques, ça l'a fait beaucoup de chemin dans ma vie. Mais le niveau de douleur qui est associé à ça, il est incroyable et c'est comme mourir. Littéralement, j'ai senti que je mourais. Physiquement, c'est terrible. Fait que, non, j'ai bien la misère à ça. Oui, non, c'est une bonne idée que.
Je n'irai pas cultiver de le revivre. Ça, c'est clair et net. Sachant ce que c'est, je vais plutôt justement, et c'est ce qui m'aide aujourd'hui à tenir, c'est que quand j'ai des coups de mou, je dis, ouais, mais j'ai pas envie de retourner là-dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour avancer? Donc le travail thérapeutique, moi, m'aide énormément et j'assiste. Hein, si vous avez des préjugés sur les thérapies, venez en parler. Je vais vous les démonter. Moi, je suis ravi de dire que je suis en thérapie depuis des années. Ça m'a sauvé la vie au sens littéral du terme à plusieurs reprises. Et puis, je suis plus un connard comme je l'ai été quand je le faisais, parce que j'étais un gros connard il y a une vingtaine d'années. Enfin, il y a 25 ans, j'étais vraiment pas quelqu'un de fréquentable. Je suis content d'être sorti de ces schémas-là, de prendre conscience du mal qu'on fait aux autres, qu'on se fait à soi, et se dire, mais il y a d'autres chemins possibles, on n'est pas obligé d'être comme ça, on peut aussi vouloir être quelqu'un de mieux, de quelqu'un de bien, simplement. Cette expression, elle a du sens, être quelqu'un de bien pour soi et potentiellement pour les autres. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand on l'est, putain, qu'est-ce que ça fait du bien.
Oui, puis ça, de mon expérience, puis j'ai eu une corroboration de ça. Avant, j'étais fâché. Avant d'avoir commencé, avant ça, j'étais un être fâché, fondamentalement fâché. J'avais une énorme colère en l'intérieur de moi, puis j'ai revu quelqu'un, ça faisait peut-être 15 ans que j'avais pas vu. J'étais voyagé aux États-Unis l'année passée, puis j'ai rencontré à Los Angeles, super chouette. Et lui, son appréhension, c'est qu'il se rappelait du moi fâché, en colère d'avant. Et quand il m'a vu là, il dit, t'es pas la même personne d'il y a 15 ans. Je disais, mais non, il y a 15 ans, j'étais encore fâché. Je me suis pris en main. Maintenant, je suis plus cette colère-là. Elle est en bonne partie résolue. Pas toute, mais en bonne partie. Donc, je ne suis plus cet être fâché-là. Et c'est pas l'épisode qui m'a amené dans cette direction-là, mais quand même, ça en fait partie, même si ça a été douloureux d'être moins fâché maintenant, d'avoir écoulé cette colère qui était accumulée, là.
J'ose même pas imaginer ce que ça aurait donné de vivre cet espace, cette expérience-là avec la personne que j'étais avant. Je pense que ça aurait été un... Non, j'aurais pas réussi, quoi. Alors, mais comme tu dis, il y a des effets en plus de bord d'avoir soigné une partie qui t'amène à soigner une autre, à réfléchir sur nos priorités, sur notre rapport à nous-mêmes, sur nos rapports aux autres, sur nos rapports au monde. On en parlait avant. Si on regarde tous les signaux qu'on a autour de nous, c'est plutôt des dévastateurs et déprimants. Donc, il est important des fois de se reconcentrer sur soi. On est que des individus, dans notre fragilité, on a nos forces, on a nos envies, on a nos désirs. Essayons de faire ce qu'on peut. C'est mon mantra. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et c'est déjà pas mal. Oui, ce sera le mot de la fin.
Oui, puis c'est merveilleux. C'est un des plus grands constats aussi, je suis arrivé, c'est d'être un avec soi-même, puis de faire avec ce qu'on est capable. On en avait parlé en pré-show. Maintenant, je suis dans un état de ma vie où je fais juste être là et je ne suis plus un être de projection vers l'avant ou un être de ressentiment du passé. Maintenant, je suis dans le plus dans le moment présent que j'ai jamais été. Et ça, c'est une énorme liberté que je me suis donnée avec les années par ce chemin-là dans lequel j'ai suivi. Puis que tu es en train de découvrir dans ce que je peux constater.
C'est pas évident à vivre, hein, oui. Je sais que moi, il y en a plein qui doivent nous dire, mais non, moi, j'ai besoin de penser au futur. Oui, oui, ça n'empêche pas d'y penser, mais ça évite de le surinvestir. Le présent est pas mal. Oui. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on est là. On passe une expérience plaisante. Et en espérant que, bien sûr, ça vous aide. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous avez besoin d'aide, vous qui vous voulez, que ce soit nous, que ce soit des personnes autour de vous, des professionnels, il y a des numéros, il y a des sites sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Évitez les applications de psy, genre IA, hein, ça c'est mort. Passez par des vraies personnes, d'accord ? Il y a un chemin possible, il y a une sortie possible, même si on la voit pas du tout dans ces moments-là, il y a une sortie possible, on en est là. Il y a des gens qui m'ont dit ça aussi pendant que j'étais dedans, je le voyais pas, mais je sais que ça marche, je sais que c'est vrai puisque je suis de l'autre côté et je vous affirme à mon tour qu'il y a une sortie possible.
Oui, allez chercher de l'aide. Merci énormément de ce partage-là. C'est immense ce partage-là. J'espère que ça va aider des gens qui pourraient être dans le pétrin puis justement les faire sortir un peu comme tu as réussi à sortir, tendre la main pour se sortir de cette position-là. Merci énormément.
Merci à toi. We go.